Bonjour à vous tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous testons des tablettes de chocolat du Rhône qui ressemblent farouchement à des livres de poche. Ensuite, nous fêtons les 70 ans des bateaux-mouches à Paris. Et enfin, nous revenons sur la découverte d'un trésor en Bourgogne. Mais commençons donc par l'actu de ce vendredi 14 juin. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Le Ternier, bonjour à tous.
Est-ce qu'un début de solution se dessine pour sortir du conflit avec les services d'urgence des hôpitaux?
Agnès Buzyn a lancé ce matin sa mission nationale avec des urgentistes au ministère après 3 mois de grève et annonce 70 millions d'euros de mesures immédiates.
Le rapport de l'agence du médicament qui estime que la nouvelle formule du Lévothyrox n'a pas provoqué de problèmes de santé graves va sans doute provoquer des remous.
L'agence est juge et partie dans cette affaire, nous dira le médecin conseiller médical de l'Association française des malades de la thyroïde.
On va faire le point sur Notre-Dame de Paris 2 mois après l'incendie.
Le site n'est pas encore sécurisé, une messe en comité restreint a lieu demain et 9% seulement des promesses de dons pour la restauration sont arrivées dans les caisses.
Nous vous proposons un cours de sophrologie ce midi à destination des candidats au bac pour se préparer.
Mais tout le monde pourra en profiter. Avis aux stressés qui veulent se détendre.
Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
Bien sûr, on sait que la France a un climat varié de par sa position géographique, mais ce n'est pas fréquent que l'on ait de telles amplitudes de température.
17 degrés en Bretagne où l'on remet le chauffage par endroits, jusqu'à 39 degrés en Corse où des écoles sont fermées pour cause de canicule aujourd'hui. Pierre est venu travailler en scooter ce matin et il a décidé de fermer la crèche qu'il dirige.
Et nous avons pris la décision de fermer la crèche. C'est calqué sur l'arrêté de la mairie qui est sorti hier. On savait pas trop, on n'avait pas trop d'infos, mais on n'a pas pris de risque. Et effectivement, je confirme que ce matin, il fait très chaud et je suis en scooter à manches courtes et j'ai l'impression d'être devant un sèche-cheveux géant.
L'impression d'être devant un sèche-cheveux géant.
C'est le sirocco du désert et l'effet du fun qui font grimper les températures en Corse, qui sont bien au-delà des normales de saison. Un incendie s'est déclaré en fin de matinée à Sartène, mais il est en passe d'être maîtrisé.
Agnès Buzyn a lancé ce matin une mission nationale pour sortir de la crise des urgences après 3 mois de grève dans une centaine de services en France.
Une rencontre avec des médecins, infirmiers, aides-soignants et ministres. Une annonce de 70 millions d'euros pour débloquer ce conflit des urgences. Agnès Buzyn qui annonce une prime également pour le personnel.
La prime de risque existait déjà, notamment pour les infirmiers de psychiatrie qui sont soumis à des patients de psychiatrie très violents. Et donc c'est une prime que nous étendons, en fait, au personnel des urgences qui subissent une pression et des difficultés permanentes avec, effectivement, un certain nombre de violences, d'incivilités. Et donc cette prime de risque est étendue aux professionnels des urgences et elle est de 100 euros par mois pour les personnels des urgences.
C'est suffisant, ça va suffire, Thomas Séchier?
Alors 100 euros net par mois, c'est un peu plus que ce que la ministre envisageait dans un premier temps, à savoir 100 euros brut. Est-ce que ça va calmer la colère des urgentistes? Eux réclamaient 300 euros net. Et Agnès Buzyn elle-même disait il y a 3 jours qu'une prime ne réglerait pas le problème. On rappelle qu'il y a une centaine de services d'urgence en grève dans toute la France. La ministre attend maintenant les propositions concrètes de la mission qu'elle a mandatée. Proposition attendue au mois de septembre pour annoncer un plan qui sera plus large et plus à même de résoudre cette crise.
Et le mouvement de colère a débuté maintenant, il y a 3 mois. Merci Thomas Séchier.
Le passage à la nouvelle formule du Lévothyrox n'a pas provoqué de problèmes de santé graves.
Voilà ce que dit le rapport final de l'Agence du médicament. Malgré la vague de déclarations d'effets indésirables des patients qui se soignaient pour des problèmes de thyroïde avec le médicament du laboratoire Merck. Ce médecin généraliste, conseiller médical de l'Association française des malades de la thyroïde, estime que dans cette affaire, l'ANSM, l'agence du médicament, est juge et partie. Philippe Sopena.
Ce qui est très extraordinaire, c'est qu'on a fait une manipulation, une expérimentation grandeur nature. On a changé ce médicament pratiquement sans prévenir les médecins et absolument sans prévenir les malades. Brutalement, au 1er avril 2017, les boîtes de médicaments ressemblaient aux autres. Il fallait vraiment une loupe pour voir la différence. On s'est dit, personne ne s'en rendra compte parce que toutes les autres opérations ou dans le monde entier, on a brutalement changé la lévothyroxine, il y a eu des problèmes. Ils sont tenus, si on le fait que l'on dose, ça va passer en douce. Et puis patatrac, ça s'est pas passé comme ça.
Le dernier épisode en date du feuilleton du nouveau Lévothyrox à suivre donc.
C'est la journée du don du sang qui est devenue le mois du don du sang, après le mois de mai difficile à cause des ponts et avant l'été.
Il se trouve que les réserves sont très basses, alors c'est le moment de prendre une heure pour sauver 3 vies, comme dit le slogan. Ce père de famille de Poitiers est reconnaissant à vie d'avoir bénéficié de multiples dons du sang qui lui ont sauvé la vie.
117 donneurs qui ont donné un jour leur sang, c'est parti dans mes bras, dans mon corps. C'est un truc de fou. Et moi, ils m'ont sauvé la vie. J'ai été diagnostiqué le lendemain de l'anniversaire de ma fille, ce qui n'a fait que rajouter à l'horreur du truc. 9 mois hospitalisé, chimiothérapie à haute dose. Mon pronostic vital était engagé. Et quand ils ont commencé le traitement, ils ont dit à ma femme, on tente quelque chose, mais préparez l'enterrement quand même. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous savez, moi, j'étais un dur à cuire avant. Hein. La maladie, elle m'aurait jamais touché. J'étais soldat. Hein. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé extrêmement malade. Une poche de sang, c'était 24 heures de plus de gagner. C'est quand même malheureux de se dire que les stocks sont critiques. J'ai pas envie de dire que c'est un devoir de citoyen, mais on devrait au moins le faire une fois par an.
Il s'appelle Christophe, il habite dans le Poitou et on l'a bien entendu.
On peut donner son sang entre 18 et 70 ans, on doit être en bonne santé et peser au minimum 50 kilos.
On sait que ça va un peu mieux en France sur le front de l'emploi, il n'empêche qu'il n'est pas toujours aisé de mettre en face des employeurs et des futurs candidats.
Pôle emploi vient d'organiser une drôle de rencontre à Limoges entre recruteurs et demandeurs d'emploi. Des matchs de ping-pong. Oui, ça peut surprendre, mais il s'agit de casser les codes et de rechercher des capacités pas forcément perceptibles lors d'un entretien d'embauche, Delphine Marion Boule.
Une salle, deux ambiances. D'un côté, des tables de ping-pong. De l'autre, des tables où 23 recruteurs sont venus rencontrer des demandeurs d'emploi. Et Jean-Jacques l'avoue, c'est atypique comme entretien d'embauche, mais ce n'est pas plus mal.
On est dans d'autres cadres. C'est vrai que là, on voit d'autres personnes. On est au milieu d'un groupe. C'est vrai que je pense qu'on se lâche un petit peu plus quand même.
C'est ce qu'attendent des recruteurs comme Bernard Blaiseau, responsable de C2000, spécialisé dans la confection. Pour lui, l'entreprise, c'est un vrai sport.
Effectivement, on travaille. Mais il faut que ça ait du rythme, il faut que ça soit dynamique, le goût de la gagne, l'envie de réussir, l'envie de partager en équipe ou au sein d'une communauté de travail. C'est un peu des valeurs ou des choses qu'on peut retrouver dans le sport.
Casser les codes, désacraliser l'entretien d'embauche pour voir au-delà des seules compétences. Géraldine Gravouille, directrice territoriale de Pôle emploi Haute-Vienne et Creuse, est à l'origine de cette initiative.
Alors le sport, ça véhicule un certain nombre de valeurs, avec l'engagement, le goût de l'effort, le travail en équipe. Et c'est souvent des savoir-être qu'effectivement les entreprises recherchent. Elles vont chercher des gens qui peuvent s'adapter si elles n'ont pas la compétence, parce qu'on peut apporter des formations, des choses comme ça.
Mais pas le savoir-être qui compte désormais autant, voire plus que les compétences aux yeux des recruteurs.
Delphine Marion Boule et l'initiative de Pôle emploi dans le Limousin.
Avec les entreprises qui recherchent le savoir-être comme celle de Cherbourg. Que nous recevions hier, avant-hier, pour la fabrication de pales d'éoliennes.
On a appris ce matin la disparition de Raymonde Bocuse, la femme de Paul, à l'âge de 93 ans.
Elle avait épousé Paul Bocuse en 1946. C'était avant tout une grande dame, a tweeté la famille sur le compte du restaurant triplement étoilé par le guide Michelin depuis 1965. Paul Bocuse est mort il y a un an et demi.
C'est ce que l'on appelle un coup de projecteur inespéré pour cette petite ville de villégiature du Sud. Villeneuve-les-Avignons, en face d'Avignon dans le Gard.
Barack Obama arrive ce soir pour une semaine de vacances. Autant vous dire que l'Office du tourisme est ravi.
Tout le monde en parle, tout le monde se demande où il arrivera, comment il a choisi Villeneuve, est-ce que la ville va être bloquée, tout le monde attend impatiemment. C'est sûr que c'est un éclairage, une mise en lumière inespérée pour nous. On est réputé pour la tranquillité, pour la qualité de nos monuments. Il y a une logique qu'il choisisse Villeneuve pour son calme. Voilà. Nos monuments ont vraiment l'habitude de recevoir des personnalités. Fut un temps, le Shah d'Iran venait très souvent à Villeneuve-les-Avignons, à l'hôtel du Prieuré. François Mitterrand, qui avait une résidence à Gordes, était un habitué de Villeneuve. Par exemple, l'abbaye Saint-André recevait très souvent la visite de la reine d'Angleterre, de la reine mère, et ça ne paralysait pas toute la ville.
13h09 sur France Bleu, la suite d'une heure en France, ce sera de la sophrologie pour préparer le bac, mais tout le monde peut en profiter. Et puis ce sont des nouvelles de Notre-Dame de Paris, 2 mois après l'incendie et à la veille d'une messe célébrée demain en petit comité avec des casques sur la tête.
Il y a toujours un risque d'effondrement de la voûte de Notre-Dame, a dit le ministre de la Culture ce matin. Elle n'est pas encore totalement sécurisée.
Et où en est-on maintenant des études avant la reconstruction?
Il faudra attendre encore quelques semaines ou quelques mois pour avoir une idée précise de comment on va s'y prendre pour cette restauration.
Et qu'en est-il des dons promis par les grands donateurs comme les particuliers?
850 millions de promesses de dons, mais seulement 9% seulement de l'argent a été versé, Timur Özturk.
On a seulement 80 millions d'euros effectivement versés par les donateurs, soit 9% des promesses de dons. C'est surtout l'argent des particuliers, arrivé par chèque ou par virement. Mais pour les plus gros mécènes, la famille Arnault et son groupe LVMH avec 200 millions d'euros, ou le groupe Total avec 100 millions d'euros, les fonds seront envoyés petit à petit en fonction du devis de la reconstruction. Ne pas verser en avance toute la somme promise, ça laisse à ces gros donateurs un droit de regard. Ils donneront quand ils le veulent pour telle ou telle partie du chantier. Pour autant, pas d'inquiétude, pour les fondations, l'argent sera versé. Alors quelques communes comme Lyon, qui avaient promis 200 000 euros, ont finalement renoncé à donner pour Notre-Dame et préfèrent sauvegarder leur patrimoine local. Mais face à l'énorme afflux d'argent, certaines fondations disent que ça ne change pas grand-chose et qu'elles ne sont plus à 1 million d'euros près.
Et les particuliers, certains conditionnent leur promesse à une restauration de la cathédrale à l'identique. Christophe Rousselot est le délégué général de la Fondation Notre-Dame.
Hier, nous avons reçu un mail qui dit ça. C'est un, je me souviens, il est de Bandol. Il a promis 1500 euros et il nous pose des questions. Et donc oui, il faut le faire. Ça fait partie, vous voyez, de la déontologie des fondations que de respecter l'expression de la volonté des donateurs. Mais l'immense majorité des 41 000 ne nous disent pas cela. Mais les gens se posent des questions et c'est normal, il y a beaucoup d'informations sur tout ça, et bien entendu, ça fait partie aussi du débat.
Plus de 740 000 candidats de 11 à 77 ans vont plancher à partir de lundi sur les épreuves du bac, l'avant-dernière édition de cet examen bicentenaire sous sa forme actuelle, avant une refonte radicale et alors que plane la menace d'une grève de la surveillance.
En attendant, on révise et on essaie de se décontracter. À la bibliothèque de Caen, on a rajouté des tables, rallongé les horaires d'ouverture et on propose des ateliers pour gérer son stress, Philippe Thomas.
Chut, ici on ne fait pas de bruit, une petite dizaine d'élèves, des filles uniquement, participent à l'atelier. Elles sont venues sur la pointe des pieds pour chasser un stress parfois paralysant, comme nous le confient Taïna, Marine et Belshana.
En fait, il y a plusieurs fois où j'ai fait des crises d'angoisse, donc ça m'est arrivé deux fois cette année pendant un bac blanc, c'est du coup repartir chez moi.
Bah moi, par exemple, j'ai des endroits qui me grattent sur le corps, ou après des difficultés à respirer parfois, genre des sueurs froides.
Il y a des moments où je remets toute ma vie en question, si je l'ai ou si je l'ai pas, je me dis que je vais décevoir toute ma famille.
Alors pour éviter tout scénario catastrophe, Gézaël Davy donne quelques conseils pour reprendre confiance en soi. C'est elle qui anime l'atelier sophrologie.
On fait des petits exercices de respiration. Le souffle, la respiration, c'est quelque chose d'important, mais ça peut passer par d'autres voies. L'expression écrite, moi je les invite parfois d'ailleurs à passer par le journal de bord pour essayer de poser sur le papier ses émotions. Et on profite de tout moment d'attente qu'on a, non pas pour se jeter sur son écran, mais pour essayer de se détendre en relâchant les épaules, en relâchant la mâchoire, en respirant. Et puis aussi, alternance de travail à l'intérieur et de marche à l'extérieur. Donc, pensez à sortir.
Sophrologie, mais aussi yoga et conseils en tout genre. Des ateliers sont proposés jusqu'à dimanche aux élèves, à leurs parents et plus généralement à tous ceux qui sont stressés de nature.
Ça vous tente, Frédéric ?
Stressé de nature, je ne sais pas comment je dois le prendre, mais en effet, cela dit, j'ai quand même peur de m'endormir. Allons-y.
Une petite séance de sophro ?
Allez, c'est parti.
Vous êtes prête ?
Oui, je suis prête.
Inspirez en fermant vos poings. Je bloque, puis en apnée. Vous faites bien de haut en bas vos épaules. Vous soufflez.
Lâchez.
Vous relâchez bien vos épaules, vos mains et vos bras. Trois fois de suite.
Trois fois.
Et là, vous verrez déjà les sensations de détente. La sophrologie va aider justement le bachelier à apprendre à se détendre, à optimiser sa mémoire grâce à d'exercices de respiration, de visualisation. Vous pouvez utiliser les exercices n'importe où, juste avant les épreuves, même au bureau. C'est une préparation mentale, comme un sportif. S'il pratique ces exercices de respiration, il va préparer justement sa conscience, ça se muscle également, comme un sport, pour justement se sentir serein durant les épreuves.
Ça va ?
Ça va.
Marlène Leclerc, sophrologue à La Rochelle. Merci à Pauline Blanc à France Bleu La Rochelle et Philippe Thomas à France Bleu Normandie pour les exercices proposés ce midi et testés en direct par Frédéric Le Tournier.
C'est vrai que ça fait du bien. L'équipe de France féminine de football est qualifiée depuis hier soir pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.
Une qualification par ricochet. La Chine a battu l'Afrique du Sud, ce qui permet aux Bleus de terminer dans le pire des cas parmi les quatre meilleurs troisièmes. C'est un peu compliqué.
Oui, j'y comprends rien.
L'essentiel est là, les Bleus sont qualifiés après les victoires contre la Corée et la Norvège et avant de rencontrer le Nigeria lundi à Rennes.
C'est l'essentiel. Des fouilles archéologiques qui étaient interrompues depuis 60 ans viennent de reprendre à Orléans. d'Aurignac en Haute-Garonne, à la grotte d'Aurignac, entre Tarbes et Toulouse. Cette grotte a été découverte en 1852.
Oui, là où l'on avait découvert des squelettes et des outils en pierre taillée. L'opération est présentée aujourd'hui, au moment où débute ce week-end des journées archéologiques.
Et nous serons à Dijon aux alentours de 13h20 dans quelques minutes, où on a retrouvé des pièces de monnaie du Moyen-Âge lors de la construction d'un immeuble en centre-ville.
Alors ce sera après un carreau de chocolat littéraire dans le Beaujolais et une croisière parisienne sur les bateaux-mouches. Voilà la météo du jour.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.